17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le grand témoin, Lamia El Haraj. Merci Lamia d'être présente.
Bonjour.
C'est un vrai plaisir que de vous retrouver, que de te retrouver. Donc, une actualité très très brûlante, puisque Paris accueille les Jeux Olympiques et tu es porte-parole des Jeux, porte-parole de la maire, maire adjointe de la mairie de Paris, conseillère et chargée entre autres du handicap.
Tout à fait.
On parlera du sport paralympique, hein,
ouais.
c'est important. Comment ça se prépare Paris 2024 ça a l'air, y a beaucoup de choses en même temps, il y a beaucoup de rumeurs, ça se prépare comment? L'ambiance à la mairie, c'est comment?
L'ambiance, elle est très concentrée, très dense. On est dans la dernière ligne droite parce que Paris va accueillir donc les Jeux Olympiques qu'on va accueillir pour la deuxième fois de notre histoire. Je rappelle que la première fois, c'était en 1924.
Ouais.
Et surtout, pour la première fois de notre histoire, on va accueillir les Jeux Paralympiques. Et nous, ce qu'on a envie de dire à tous les Parisiens, tous les Franciliens, tous les Français qui ont l'occasion de venir à Paris pendant les Jeux, venez, venez profiter de cette très belle fête qui aura lieu tout au long de l'été. C'est un événement unique que probablement, d'ailleurs très sûrement, vous ne vivrez qu'une fois dans votre vie. Et on a tout fait, on a tout mis en place pour que Paris soit une fête à ce moment-là et qu'elle soit complètement transformée. Donc on a hâte et on est très concentrés.
Alors quelques questions, peut-être d'école, je ne sais pas. Les Jeux Olympiques, ça vient d'où, Lamia?
Alors, les Jeux Olympiques, ça date de l'époque grecque, romaine, où il y avait des Olympiades qui étaient organisées. Donc, c'était un moment de grande émulation sportive où chacune et chacun venait se concurrencer par le sport, par le jeu. Et où c'était un moment aussi pour célébrer la paix, l'harmonie des peuples. D'ailleurs, les anneaux olympiques représentent chacun un continent.
Les anneaux, c'est venu après.
Tout à fait. C'est un moment qui va être absolument exceptionnel.
Il y avait la guerre tout le temps. Et la Grèce était le centre du monde. Et puis Zeus s'est mis en colère. Et il a dit il faut arrêter vos bêtises. Et donc, on est venu des quatre coins de la Grèce. Et on a fait la trêve. Et c'est donc. Les Jeux Olympiques sont assimilés à la paix. Donc, à la trêve et à la paix. Et puis, ils ont disparu, les Jeux, à un moment donné. Ils ont été supprimés par un empereur, et pendant 15 siècles, on n'a pas eu de Jeux. Et c'est un génie français qui les a restaurés, Pierre de Coubertin.
Ah, dont on vient de rénover le stade qui porte son nom dans le 16e arrondissement de Paris, la semaine dernière, qu'on a inauguré.
C'est lui, dans sa célèbre conférence à la Sorbonne, et il a lancé les Jeux en 1896, les premiers jeux historiques étaient où? Les premiers jeux de l'histoire moderne? À Athènes, en 1896. Et il n'y avait pas une seule femme.
Ah bah oui.
Interdit aux femmes.
Oui.
Et lors de la deuxième, en 1900, les femmes ont pu faire du tennis et du golf. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la France innove, et Paris 2024 innove, parce qu'en plus des Jeux paralympiques, il y a quelque chose d'historique aujourd'hui dans les Jeux. Ce sont les premiers Jeux où la parité est absolue. Il y a 11 500 athlètes et il y a autant de femmes que d'hommes.
Et c'est la première fois.
C'est la première fois.
Bon, bah, j'apprends quelque chose. Merci.
Il n'y a jamais
Nasser,
eu de parité dans les Jeux Olympiques.
Cette très belle leçon d'histoire.
C'est la France. Non, mais c'est important de rappeler
bien
que la
sûr,
France.
Bien sûr, mais c'est hyper important.
Que la France, elle est porteuse. Et puis, c'est récompensé cette célèbre égérie féminine qui a consacré sa vie au sport féminin, qui s'appelle Alice Millette. Elle a consacré toute sa vie pour que les femmes puissent avoir accès à toutes les disciplines. Et c'est un hommage qu'on lui rend à travers ces Jeux olympiques qui sont dans la parité absolue avec les 11 500. Bon, j'arrête de taquiner. Alors,
non, mais j'apprends des choses, tu vois.
Ouais. Alors c'est marrant parce que dans les Jeux olympiques, il y a Hidalgo qui dit des trucs, et Valérie Pécresse qui dit... Hidalgo dit par exemple, oui, il faut rester à Paris, ça va être une belle fête, il ne faut pas partir. Elle a dit ça, je crois, dans le micro.
Oui, tout à fait.
Et de l'autre
mais
côté,
c'est ce que je viens de dire aussi.
Ouais.
Ça va être une belle fête, il faut rester à Paris.
Et de l'autre côté, il y a Valérie Pécresse qui dit, ouais, les transports, non, il n'y a pas de problème, il faut descendre à la station d'avant pour rentrer chez vous.
Non, mais
donc, il y aura trop
ce qui est révélateur, en fait, c'est que, pour le coup, Anne Hidalgo a porté cette candidature qui date de 2015, hein, de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que c'est une aubaine, en vérité, pour une ville comme Paris. On a réalisé en l'équivalent de 5 ans ce qu'on aurait mis probablement 4 mandats, donc 20 ans,
à mettre en place. Incroyable. On a vu
l'accessibilité universelle,
la
rénovation de la rénovation de nos équipements sportifs, la mise en accessibilité de nos bâtiments publics, l'aréna de la Porte de la Chapelle, l'Adidas Arena qui est absolument magnifique. La rénovation, ben, je parlais tout à l'heure du stade de Coubertin dans le 16e, la piscine Georges Valeret dans le 20e, la piscine d'Auvin. Bref, il y a vraiment, c'est incroyable la piétonnisation des rues, la végétalisation, tout ce qui est en train d'être mis en œuvre. Ce qu'il faut dire, c'est que Valérie Pécresse, côté région Île-de-France, n'a pas su profiter de cette opportunité des Jeux, notamment pour amorcer une révolution en matière de transport, la mise en accessibilité du métro par exemple, l'augmentation de la fréquence, et en plus de ça, si on le corrèle avec actuellement la transition écologique qui est nécessaire, ça aurait été le sens de l'histoire d'accroître nos investissements en matière de transport en commun. C'est pas le choix qu'elle fait, et donc aujourd'hui je comprends qu'elle soit dans une position un peu délicate pour vanter les mérites de l'usage des transports en commun pendant les Jeux. Mais c'est pas grave, le métro sera peut-être pas accessible, mais le tramway le sera, les bus le seront, il y aura des navettes, vous pourrez circuler à pied, à vélo, ça va être chouette. Il y a un site de festivité par arrondissement avec des énormes programmations prévues, ça va être extraordinaire, vraiment.
L'ami Alarage, Paris, on a l'impression que justement avec ces Jeux Olympiques, on a deux choses qui occupent beaucoup l'esprit des gens, c'est bien sûr la circulation. Parce que là, il y a plein de travaux dans Paris.
Tout va s'arrêter avant les Jeux. L'idée, justement, de tous ces chantiers, c'est que nous puissions livrer au moment des Jeux et que Paris soit prête au moment des Jeux.
C'est l'enfer.
Et ce sera le cas. C'est l'enfer. Après, oui, je comprends. Bien sûr que quand il y a des travaux, c'est chiant. Moi, la première, en tant qu'usagère, ça m'embête quand il y a des travaux. Pour autant, quand on voit l'avant et l'après, on se dit, punaise, heureusement qu'on a fait ces travaux, c'est magnifique. Quand vous avez une rue aux écoles en bas de chez vous, quand vous avez de la piétonnisation, quand on élargit les trottoirs, quand on végétalise, c'est quand même une ville où il fait mieux vivre. Donc oui, il y a une période qui est celle des travaux qui est chiante à vivre. Mais
c'est vrai, mais on voit aussi que les problèmes de circulation, c'est pas que pour les voitures. On voit des embouteillages de vélos, on voit des vélos qui
ont des feux rouges. Mais Paris, c'est une ville de 2,2 millions d'habitants.
On voit vraiment des problèmes.
Paris, c'est 2,2 millions d'habitants.
Vous voyez, il y a une anarchie entre les trottinettes, les vélos, les motos, les scooters. On a le sentiment que chacun est propriétaire de son espace et ça crée beaucoup de difficultés.
Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a 2,2 millions d'habitants à Paris et autant, voire plus, d'usagers du quotidien. C'est-à-dire de gens qui viennent travailler à Paris, qui viennent sortir à Paris, qui viennent visiter des copains, qui vont au théâtre, au cinéma, au musée, bref. Donc, c'est une ville qui est extrêmement dense. Donc, forcément, il y a des contraintes d'usage. Je ne sais pas si on peut parler d'anarchie. Évidemment qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles, le code de la route et ce qu'on a mis en place, à savoir un code piéton, un code de la rue, de façon à essayer justement de concilier l'ensemble des usages. Ceux qui veulent marcher, ceux qui sont à trottinette, ceux qui sont à vélo, voilà. Donc on y travaille, il faut qu'on travaille à l'améliorer. Il y a des embouteillages de vélos, bah écoutez, tant mieux, ça veut dire que les gens se sont vraiment emparés de cette révolution culturelle du vélo qui a été mise en œuvre à Paris. Et vous voyez aujourd'hui certaines pistes qu'on a inaugurées il n'y a pas longtemps, qui sont déjà totalement encombrées. Donc il faut réussir à dédoubler, à agrandir.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
La mienne et la rage, les Jeux Olympiques Paris 2024, évidemment c'est un vrai bonheur, c'est Paris Ville Lumière qui va resplendir avec les étoiles
qui
du sport.
Qui va accueillir le monde entier.
On va avoir une constellation, Paris Ville Lumière, avec des étoiles partout, des étoiles du sport, et ça va être magnifique. Mais deux thématiques, le logement et la sécurité. Beaucoup de rumeurs aussi sur le logement, sur une inflation, sur une spéculation. Voilà, des gens qui vont louer leur appartement à des prix faramineux. Les logements étudiants qu'on a réquisitionnés pour loger des athlètes. On a beaucoup de polémiques autour du logement.
En fait, je pense que c'est très français. C'est-à-dire qu'on est inquiet tout, on aime bien râler, on aime bien se plaindre en permanence. Alors que je le redis, Paris est une fête. Paris sera une fête pendant toute cette période-là. Sur la question du logement, évidemment que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui. aujourd'hui, on est confronté à une crise du logement qui est en cours et qui, malheureusement, va aller en s'accroissant. C'est-à-dire que je crois que dans les mois qui vont venir, on va faire face à la plus grande crise du logement de l'histoire de la France. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a fait le choix de ne plus investir dans le logement social, de ne plus investir dans les nouvelles constructions de logements, et tous les professionnels de l'immobilier le disent, on a actuellement une crise du logement sans précédent et qui va aller en s'accroissant.
Dans l'incitation à la mobilité.
Dans l'incitation à la mobilité, dans l'incitation à la construction, dans les aides qui sont garanties pour permettre l'accès à la propriété. Aujourd'hui, vous avez un marché de l'immobilier qui est complètement stagnant et pour la première fois qui peut aller vers une forme de déflation. Sur la période des Jeux, évidemment qu'il y a des contraintes de logement qui sont très fortes, puisqu'on va accueillir 10 millions de visiteurs pendant la période des Jeux. Donc oui, certains se sont adonnés à de la location sur des sites de plateformes bien connues qui permettent de s'en mettre plein les poches. Voilà. C'est malheureusement une réalité. Nous avons demandé, la gauche a demandé au Parlement à ce qu'il n'y ait pas d'exonération fiscale sur cette période-là, puisque c'est le choix qu'a fait le gouvernement. On n'a pas été entendu, on le regrette. Mais en même temps, on a des visiteurs, il faut bien qu'ils puissent se loger sur Paris. C'est une très grande chance. Mais je pense qu'à terme, il faut qu'on aille vers une régulation européenne de ces sites de plateforme. Ça pose des problèmes à Paris, ça pose des problèmes à Barcelone, à Venise, à Rome, dans toutes les grandes capitales européennes et toutes les capitales, les villes européennes très visitées. Il y a un problème aujourd'hui qui est un problème d'ubérisation de la location et du secteur de l'hôtellerie via Airbnb, pour ne pas les citer. Il faudrait les interdire en réalité.
Le contexte international est violent avec les guerres, on y reviendra tout à l'heure, des attentats terroristes. Et le gouvernement français met en place des milliers de militaires supplémentaires. Évidemment, l'horreur des horreurs, c'est de se dire, de prévenir un attentat en plein Jeux Olympiques, donc avec toutes les menaces. On parle même d'une cérémonie d'ouverture sans les athlètes. On en a parlé. Quelle est votre
position ? Ça, c'est de la spéculation. Il va y avoir une cérémonie d'ouverture qui, pour la première fois de l'histoire des Jeux, aura lieu à l'extérieur d'un stade, donc dans l'espace public, sur la Seine, très précisément. Et ça répond à une volonté très forte de la maire de Paris, à savoir d'avoir une cérémonie d'ouverture populaire, qui soit ouverte au plus grand nombre et qui soit gratuite pour celles et ceux qui seront sur Paris. 300 000 places prévues dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. À la base, on était sur une jauge à 800-900 000 personnes. C'est ça que nous avions demandé. Quand vous voyez que, par exemple, la cérémonie du jubilé de la reine d'Angleterre à Londres, sur 2 km, a réuni plus de 2,8 millions de personnes en toute sécurité, je pense qu'à Paris, on aurait pu faire pareil. Ce n'est pas le choix qu'a fait le président de la République, puisqu'on a un président de la République qui se mêle de tout, notamment de la taille des arbres au bord de la Seine et des boîtiers des bouquinistes, mais bon, grave.
Il y aura beaucoup de gens frustrés.
Bah écoutez, c'est pas le souhait qu'on avait, nous, à la base. L'idée, c'était que ce soit ouvert au plus grand nombre. Toujours est-il que ça reste quand même une jauge très importante, hein, 300 000 personnes, c'est absolument colossal. Ce sera un très beau moment, ce sera une très belle festivité et ça aura lieu, évidemment, en présence des athlètes. Après, il y a des inquiétudes sur les questions de sécurité, c'est normal. Mais je crois qu'on peut dire qu'on a la garantie que rarement autant de moyens auront été déplacés, concentrés sur un moment qui sera un moment unique. La ville de Paris met 3000 agents de sécurité à disposition, dont 2000 policiers municipaux. C'est colossal.
Non, c'est beaucoup de bénévoles.
Là je parle de policiers municipaux. Je parle d'agents de la ville de Paris, ouais, qui sont déployés uniquement sur l'aspect sécuritaire.
Sécuritaire.
3000, ouais, dont 2000 policiers municipaux. Du côté de l'État, on parle de 11 000 personnes dépêchées pour la sécurisation des Jeux. Du côté des agences de sécurité privées, on est sur près de 45 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est colossal. Il faut juste se rendre compte qu'il n'y aura pas d'endroit plus sécur au monde à ce moment-là.
Sans compter après les bénévoles, dont je parlais, qui sont là pour
Les volontaires, ils sont là pour accompagner les parcours, mais pas du tout pour l'aspect sécurisation. Et puis, on a quand même la chance, il faut aussi se le dire, en France, d'avoir des très grands professionnels, des gens qui sont extrêmement compétents, dont c'est le métier. Et notamment, par exemple, vous aurez des hommes du RAID et du GIGN qui seront dans la Seine avec un certain nombre d'exercices dans l'eau, de façon à sécuriser aussi le passage des différents bateaux et des différents athlètes. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne se passera rien. Je dis qu'on fait tout pour qu'il ne se passe rien.
Et vous êtes maire adjointe et vous êtes chargée du handicap à la mairie de Paris. Ces jeux vont voir les Jeux paralympiques, ça va être extraordinaire. Moi, personnellement, quand je regarde les Jeux Olympiques, quand je regarde ceux qui, malheureusement, ont été meurtris dans leur chair et qui sont en fauteuil roulant ou autre, au bout d'un moment, à la télévision, j'oublie complètement le handicap. C'est-à-dire, je rentre dans la performance sportive et on rentre complètement dans cette espèce d'excellence du sport et on oublie ça. C'est votre sentiment aussi ?
Je crois que les Jeux paralympiques vont nous permettre de vivre un moment extraordinaire de vibration sportive, parce que vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux para-athlétiques internationaux à Paris, au Stade Charletti, il n'y a pas longtemps. C'est incroyable la performance sportive qui a lieu pendant les paralympiques ou pendant les épreuves parasportives. Au-delà de ça, je pense que c'est pour nous une occasion extraordinaire, c'est de changer de regard sur le handicap. Parce que là, vous verrez des athlètes, non pas des personnes en situation de handicap, mais des athlètes, extrêmement performants, qui vont aller au bout de leur force et qui vont réaliser des exploits sportifs formidables. Et pendant la période des Jeux, 450 000 personnes en situation de handicap qui seront dans la ville, autour desquelles on va vibrer, avec lesquelles on va faire la fête, pour lesquelles on va célébrer leur performance sportive. Donc je pense aussi que dans notre société, ça peut et ça doit changer notre regard sur le handicap.
Est-ce que vous diriez, on se vous tutoie, hein, ça va de l'un à l'autre, est-ce que vous diriez que ceux qui pratiquent le sport paralympique, les handicapés, est-ce que de cette façon, il contribue à nous aider ou à contribuer à faire mieux société, à mieux faire nation, à renforcer la cohésion entre les gens, c'est-à-dire à installer un fait qu'on est tous ensemble.
Je pense que la responsabilité nous incombe à tous, en fait. C'est-à-dire que quand Paris est candidate pour accueillir les Jeux paralympiques pour la première fois de l'histoire de notre pays, on a une responsabilité, c'est la transformation de la ville. Il y a des travaux partout, vous avez raison, parce que partout on fait des travaux de mise en accessibilité. Par exemple, on a repris à Paris 1800 arrêts de bus pour les rendre accessibles.
C'est ça, faire mieux société.
Je ne sais pas si
c'est
vous
ça.
Vous rendez c'est compte. C'est exactement ça que ça veut dire.
On inscrit,
quand on reprend...
On inscrit l'autre qui est handicapé, mobilité réduite, on l'inscrit dans une espèce d'harmonie et d'unicité dans laquelle nous on se trouve. Donc,
tout à fait. Et puis on fait société pour tous, c'est-à-dire que quand on accueille mieux, par exemple quand on fait des pentes douces sur les arrêts de bus ou dans nos équipements sportifs, et ben en fait on fait pour tout le monde, pour les personnes vieillissantes, pour les personnes en perte d'autonomie, pour les enfants qui apprennent à marcher, pour, enfin bref, on fait pour tous. L'accessibilité universelle, c'est d'abord l'universel, donc c'est pour tout le monde, quelle que soit sa situation. Et nous on considère à Paris, la maire de Paris réfléchir une société inclusive, c'est transformer l'environnement et non pas demander aux gens de s'adapter à un environnement qui, par nature, peut être hostile.
Oui, et puis en même temps, c'est se projeter, c'est-à-dire que la personne qui est dans cette situation-là, on peut très bien, un jour ou l'autre, nous, se retrouver à sa place.
Bah écoutez, quand vous voyez l'évolution de la société française d'un point de vue démographique, avec de plus en plus de personnes de plus de 65 ans, avec des situations de perte d'autonomie qui arrivent avec l'âge, et c'est normal, on se dit qu'en faisant ça, on anticipe aussi la transition qui est en cours et on l'accompagne pour adapter la ville. Et je crois que c'est ça notre objectif en tant que décideurs politiques.
À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, avec Lamia et Lara, c'est passionnant parce qu'on était plein dans les Jeux Olympiques. Lamia, vous êtes aussi une personnalité politique, hein, vous avez été députée, on vous connaît bien à Beurre FM, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Le climat politique, il est un peu délétère. On a l'impression que ça bouchonne dans tous les coins, dans les quartiers, c'est au niveau du logement, au niveau du, enfin, on a quand même une espèce d'ambiance qui est assez morose, et on a un Front National qui est très fort, avec une xénophobie, des attentats anti-musulmans, des attentats antisémites. On a un climat qui est pas très bon. On montre un index sur les quartiers. Enfin, c'est vraiment un climat qui est assez détestable. Et dans ce climat-là, il y a une élection qui arrive avant les élections municipales et les élections présidentielles. Ce sont les européennes. Et dans tous les meetings qu'on a vus, on parle de l'Ukraine, et l'Europe s'est construite sur le plus jamais ça. C'est-à-dire qu'avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, on a installé l'ONU, la Cité des Nations, l'ONU, et on a l'impression que tout ça vole en éclats et que chacun se fait sa petite guéguerre. Poutine, les Chinois, Erdogan, Israël, bah, chacun se fait sa guerre et puis finalement, l'ONU ne sert plus à rien.
J'espère que mon soupir en dit long, en fait. C'est vrai que le climat est très anxiogène. Vous avez une inflation qui est absolument colossale. Des mesures d'économie annoncées par le gouvernement qui vont, comme toujours, taper dans les poches des plus précaires et des plus fragiles. Et surtout pas dans les poches des ultra-riches qui réalisent des records absolus de rentabilité et de dividendes. Vous avez la guerre en Europe avec ce qui se passe en Ukraine. Vous avez la guerre au Proche et au Moyen-Orient avec la situation absolument dramatique à Gaza avec les attentats terroristes qui ont été commis en Israël et tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'on va devenir. Et la difficulté qu'on a, c'est que on a des organisations internationales et des organisations européennes qui étaient censées garantir la paix.
Que l'Europe est agonisante? Parce que ces élections européennes sont importantes. C'est pour ça qu'on arrive aux européennes. Est-ce que c'est quelque chose qui agonise?
Non, c'est pas quelque chose qui agonise. La difficulté qu'on a, c'est que vous avez des populistes qui soufflent sur les braises de ces peurs. Moi, je crois que quand on a des responsabilités politiques, publiques, médiatiques, on se doit de répondre aux angoisses et aux interrogations des Français, des gens qui vivent en France, de façon à y apporter des réponses pragmatiques et concrètes et de rassurer.
Ils soufflent sur les braises, mais ils ont pris le pouvoir un peu partout, en Italie, en Hongrie.
C'est bien le problème.
Ils érigent des murs.
C'est bien le problème. Parce que la démagogie est toujours plus facile à croire que des paroles qui essayent d'être sensées ou qui essayent d'être dans la nuance. Donc il faut que nous, on tienne le cap, qu'on tienne bon. Il faut qu'au moment des élections européennes, on arrive à endiguer au maximum la montée de la peste brune, parce que c'est encore ce qu'est aujourd'hui l'extrême droite en France. Je suis très inquiète, parce que quand vous regardez les intentions de sondage, de vote dans les sondages, l'extrême droite pourrait faire plus de 40% au moment des élections européennes. Moi, je trouve ça complètement fou. C'est pas mon histoire, c'est pas ma construction politique et je pense qu'il faut que la gauche progressiste et humaniste réussisse à tenir le coup. Personnellement, je soutiens la liste de Raphaël Glucksmann. Je pense qu'il faut absolument qu'on donne beaucoup de force à cette gauche internationaliste et humaniste de façon à incarner une alternative pour le pays, parce que pour ma part, je ne peux pas croire que l'avenir, ce soit le rejet de l'autre, que ce soit le racisme, que ce soit la haine, ce qui est prôné aujourd'hui.
Surtout aujourd'hui, quand on a des enfants, on ne sait pas s'ils vont pas aller à la guerre dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux dire qu'avec la guerre qui est aux portes de l'Europe et avec les déflagrations qu'il y a sur la planète, je crois qu'il y a 42 conflits aujourd'hui, des guerres déclarées. C'est un peu inquiétant. Les Européens sont divisés.
Je pense que quand on veut préserver la paix, il faut se doter des mêmes moyens que ceux qui veulent absolument la guerre. C'est Martin Luther King qui le disait. Il faut qu'on soit quand même éminemment conscient que ce qui se joue en Ukraine, c'est pas juste, entre guillemets, les Ukrainiens qui sont agressés par les Russes ou un truc, en gros, qui serait très loin de nous entre les Russes et les Ukrainiens. Ce qui se joue en Ukraine, c'est l'avenir des démocraties, parce qu'une fois que Poutine gagne en Ukraine, ce qu'il va tenter de faire, c'est d'aller embêter la Lettonie, l'Estonie, les pays baltes, la Pologne, le Danemark, la Moldavie. Bref, on voit bien que ces velléités, elles vont quand même au-delà de simples frontières, et je mets beaucoup de guillemets dans ce que je dis, russes ou ukrainiennes. C'est pas le Donbass, c'est quelque chose de plus global, c'est un modèle de société. Donc si on veut empêcher ça, il faut absolument permettre à l'Ukraine de gagner dans le cadre de ce conflit dont elle est victime, puisque je rappelle que c'est une agression russe, et tous ceux qui disent l'inverse se trompent vraiment très lourdement. Moi, j'ai aucune envie qu'on fasse la guerre, mais je pense qu'il faut qu'on se défende et que pour ça, il faut qu'on aide les Ukrainiens dans le conflit dans lequel ils sont engagés.
Vous avez parlé de l'Ukraine à juste titre, hein, avec un tollé général des démocraties, des moyens financiers mis en œuvre. On a le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures par rapport à la guerre au Proche-Orient. On a l'impression qu'Israël n'obéit à aucune injonction, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle a échappé à tout contrôle. Et elle traite l'ONU d'organisation antisémite. Elle pratique un crime de guerre, voire un génocide suite à la réunion en Afrique du Sud. Le terme de génocide a été prononcé. Le terme a été prononcé par l'Espagne, par le Mexique, par différents pays. On a l'impression qu'il y a quand même un pays qui échappe à tout contrôle, un pays colonial. colonisateur, un pays où un pays religieux où il n'y a pas de rien ne le retient et que on a le sentiment d'impuissance. Pour comment l'Europe, les États-Unis, pourquoi ils laissent faire un pays qui s'en donne à cœur joie, qui est en train de massacrer les Palestiniens ?
Alors, je serais beaucoup plus nuancée pour le coup dans mon propos. Il faut quand même rappeler la genèse de tout ça. Vous avez aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite qui est en responsabilité en Israël et notamment
même
sur
pas l'extrême droite. Ce sont des religieux intégristes.
Oui, donc c'est de l'extrême droite religieuse.
Il faut lire l'excellent livre qui vient de sortir de Charles Anderlin. Israël agonie d'une démocratie.
Je vais me permettre de répondre pour le coup là-dessus. Il y a quand même un gouvernement qui est en place et qui est un gouvernement légitime puisqu'il a été élu. Je rappelle aussi que pour le coup, en Israël, ça fait maintenant de nombreux mois qu'il y a des manifestations hyper importantes des progressistes, on va dire d'ailleurs, quel que soit leur bord politique, dénonçant les agissements de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a une situation, notamment en Cisjordanie, avec une installation de colons intégristes religieux, faut aussi le rappeler, qui fait beaucoup de mal en fait au Proche-Orient et qui est qui rend la tension inextricable pour une solution de paix à deux États qui vivent ensemble en paix et en sécurité. Bon, ensuite il y a eu les attentats terroristes du 7 octobre et à partir de là, Israël a le droit de se défendre, c'est un fait. Mais ce qui est en train de se passer actuellement, notamment ce qui se passe à Gaza, est absolument inacceptable sur le plan humain. Les images qui nous parviennent, les chiffres qui nous parviennent donnent le tournis du fait de leur inhumanité. Donc la question, c'est comment on sort de cette situation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette situation perdure dans le temps, plus à la fois elle donne le sentiment de délégitimer le droit d'Israël à exister, alors même que c'est un État démocratique, en dépit des critiques qu'on peut émettre vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on arrive à une solution de paix ? Parce que je crois qu'on doit toujours poursuivre cet objectif-là, qui est celui d'une solution de paix, mais qui ne peut exister qu'à la condition d'avoir un État palestinien qui puisse vivre aux côtés de l'État israélien en paix et en sécurité.
Alors ça, c'est le discours habituel.
Non, c'est pas le discours habituel. Je pense que ça doit rester un objectif et une perspective.
L'objectif, c'est les frontières de 67. Il est clair que l'État palestinien devra exister dans les frontières
de 67. Ne pas reconnaître les colonies qui ont été installées depuis maintenant quelques années par Israël.
Colonies.
Tout à fait.
Mais sur le plan démocratie, vous dites qu'il a été élu, mais Poutine a été élu, les dictatures africaines sont élues, les dictatures
américaines. Je suis pas d'accord avec vous, on peut pas mettre. Non, je suis désolée, mais on peut pas mettre sur le même plan.
Ils sont élus.
Attendez. Je veux dire, il y a un État aujourd'hui en Israël, quoi qu'on puisse penser de l'orientation du gouvernement, et je la dénonce et je la critique, et je pense qu'il faut la combattre de toutes nos forces. Il y a un État démocratique qui a eu des élections démocratiquement reconnues et qui ont abouti aux élections et à la composition politique qu'on connaît. C'est pas tout à fait le cas de ce qui se passe
reconnu,
en Russie.
Ça veut dire quoi? Reconnu par
ça veut dire que c'est des élections
par
ordinaires.
Par l'Europe, c'est ça?
Non, mais on peut pas dire ça.
Reconnu par qui?
Par les observateurs internationaux qui, pour le coup, étaient présents au moment des élections
et que les élections ont été
régulières, ce qui n'est pas le cas en Russie.
La Cour suprême n'existe plus, puisque la réforme judiciaire de Netanyahou.
Mais ça a été contesté, on est d'accord.
Non,
il y a eu des manifestations massives.
Elle a été votée par le gouvernement et par le Parlement. La Cour suprême n'existe plus. Il y a un véritable état d'apartheid à Gaza, à Jérusalem-Est, où les Palestiniens ne sont ni israéliens ni palestiniens. C'est une prison à ciel ouvert. Israël n'a pas de constitution. Israël fonctionne avec des lois fondamentales, avec les lois de la Torah. Donc la notion, l'agonie de la démocratie, comme le dit Charles Anderlin, qu'on ne peut pas accuser d'antisémitisme, c'est quand même une réalité. Et je pense que le mot de démocratie doit être en tout cas utilisé avec des pincettes quand on parle d'Israël.
Je ne pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan Israël et la Russie. Typiquement, vous voyez, pour le coup, pour avoir accueilli il n'y a pas longtemps à la Fédération Socialiste de Paris un certain nombre d'opposants russes qui ont organisé un débat avec notamment d'anciens députés de la Douma qui ont témoigné de la situation en Russie, on ne parle pas de la même chose. Après,
non, il n'y a pas de démocratie en Russie, c'est clair.
Voilà.
Mais quand
donc
on dit
je
ne
pense pas
élu,
qu'on puisse mettre sur le même plan.
Les dictateurs se font élire aussi à 90% des voix. Quoi.
Je ne suis pas d'accord.
Donc vous êtes optimiste sur une solution à deux États, vous ?
Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis pas du tout optimiste et je pense que malheureusement, plus ça va, moins on peut l'être. En revanche, je suis persuadée qu'il faut absolument la libération immédiate de tous les otages encore détenus par le Hamas. Je rappelle qu'il y a une solution qui a été proposée, acceptée par Israël et qui a été rejetée par le Hamas, qu'il faut absolument cesser le feu à Gaza, qu'il faut permettre aux populations civiles d'avoir recours à leurs droits fondamentaux et ne serait-ce que l'aide humanitaire qui est actuellement bloquée aux frontières de la bande de Gaza. Voilà, oui, je suis très inquiète, bien sûr qu'il y a de quoi être inquiet. Après, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas à la fois importer ce conflit-là, mais au-delà de ça, garder une voix clairvoyante qui continue d'appeler pour la paix et d'œuvrer pour la paix, même si malheureusement elle semble compromise à ce stade. Et je le regrette.
En tout cas, on va terminer sur cette touche d'optimisme. Merci Lamia El Arache d'être venue à Beur FM.
Merci de votre invitation.
Et
c'est toujours un plaisir.
Bientôt, à très bientôt, parce que avec les fonctions que vous occupez sur les Jeux Olympiques, on va se voir régulièrement.
Mais avec plaisir. Peut-être qu'on se verra pendant les Jeux.
Avec plaisir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beur FM.